Le temps de lire. Chaque mois, retrouvez les coups de cœur littéraires d'Anne-Françoise. Le temps de lire. Présenté par Anne-Françoise Rocchitelli. Le temps de lire, quatrième épisode avec Anne-Françoise. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour.
C'est un livre assez dense que tu nous présentes aujourd'hui. Nous allons parler de Confiteor de Jaume Cabré aux éditions Actes Sud. C'est sorti en 2013 et je ne sais pas par où commencer, donc je vais te laisser faire.
Voilà, moi non plus. Je voulais juste préciser pour les auditeurs, puisque c'est le quatrième épisode, que... Pour ceux qui se poseraient des questions, justement, dans cette émission, tout repose sur l'improvisation. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien d'écrit. Je ne sais jamais trop comment je vais commencer. Je m'entraîne un peu le dimanche en me promenant. Et après, le lundi, ça part comme ça veut. Et donc, ce n'est jamais exactement ce que j'avais prévu au départ.
Ça rend les choses plus spontanées.
Voilà. Et il se trouve que ce livre-là, jusque-là, j'ai présenté des livres qui n'étaient pas trop gros et relativement simples au niveau structure. Là, c'est un gros livre, donc Confiteor. La version que j'ai, c'est l'édition de poche, entre guillemets, donc Babel, hein, puisque c'est un livre qui est paru chez Actes Sud en 2013, et qui fait 914 pages, je crois. Chez Actes Sud, c'était peut-être écrit plus gros, et donc il y avait peut-être plus de pages.
J'avais vu que 784.
Ah ouais, bon bah... Et en tout cas, personnellement, j'ai mis 15 jours à le lire, ce qui est beaucoup, beaucoup par rapport à d'habitude. Et oui, effectivement, c'est un livre, je dirais pas confus, mais complexe, qui donc demande un petit effort, mais en même temps... Quand je l'ai commencé, je suis rentrée dedans immédiatement et j'ai continué. Mais
est-ce qu'on se laisse porter finalement?
Oui, on se laisse vraiment porter. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui nous donne... Finalement, il y a un côté un peu thriller hein, dans ce livre, même si ce n'est pas de la littérature facile. Et en fait, quand on commence, on a toujours envie de continuer. Et comme il y a plein d'histoires différentes, et ben, en fait, forcément, à un moment, il arrête une histoire pour passer à une autre. Donc, on a toujours envie de savoir... Enfin, voilà, on se rappelle de l'histoire d'avant et on a envie de savoir ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Donc, en fait, on a tout le temps envie de le continuer. Alors je vais quand même essayer d'expliquer un petit peu de quoi il s'agit pour donner envie au lecteur. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Adria, la première chose. Ça se passe donc à Barcelone principalement, mais ça se passe aussi à tout un tas d'autres endroits. Mais disons que l'histoire d'Adria, Adria Ardévol, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, hein, je ne parle pas espagnol.
À noter que c'est un homme.
Oui, c'est même un petit garçon au début. L'histoire commence quand Adria a, je ne sais pas, une dizaine d'années à peine. Et donc, il va raconter sa vie. Et d'ailleurs, ce livre, c'est sa vie, puisque, en fait, le principe de ce livre, c'est que Adria, arrivé, je dirais, à un âge canonique, je ne sais pas exactement lequel, et en fait, il se rend compte, il est seul, il a perdu tous les gens qu'il aimait pratiquement. Il est en train d'avoir la maladie d'Alzheimer. Enfin, en tout cas, son cerveau... on va voir qu'Adria était quelqu'un de très, très intellectuel, érudit, cultivé. Et quand il se rend compte que finalement, ça, ce qui faisait ce qui donnait un sens à sa vie, commence à disparaître, va disparaître, il décide de raconter sa vie. Enfin, il décide, en fait, plus précisément, d'écrire une lettre à Sarah, qui est la femme qu'il a aimée toute sa vie, une grande partie de sa vie, et qui lui a un peu échappé, en fait. Donc, en fait, ça va être l'histoire d'Adria. Mais comme l'histoire d'Adria est très compliquée, et que Adria est quelqu'un qui... comment dire... qui se pose des tas de questions, et qui a rencontré dans sa vie, je dirais, il y a eu des épisodes en fait dans sa vie assez marquants. En fait, il y a un autre personnage dans ce livre. Il y a plein de personnages, hein, clairement. Il y a Adria, il y a son père, sa mère, son ami Bernard, Sarah, donc la femme qu'il aime. Il y a Lola Chica, qui est la bonne de la famille, qui est là présente pendant tout le livre. Il y a sa cousine, ses cousins. Il y a d'autres personnages comme par exemple Monsieur Berenguer qui est le partenaire commercial de son père et qui est un personnage assez bizarre. Il y a d'autres personnages qui ne sont pas du tout à Barcelone et qui sont dans des endroits et à des époques, donc j'en parlerai, du monde où il s'est passé des choses absolument épouvantables. Mais il y a un autre personnage qui n'en est pas exactement un, et en fait qui est le deuxième personnage principal de ce livre, et qui est un violon. Un violon Storioni, alors je pense que là, Rome Cabré l'a inventé, hein, en fait, ce nom de luthier, puisque en fait, à Crémone, au XVIIe siècle, il y avait les Stradivari et les Guarneri qui faisaient des violons, et lui, il va raconter l'histoire d'un violon Storioni, donc fabriqué par Laurent Storioni, qui était un jeune luthier, qui le premier violon fabriqué par Laurent Storioni à Crémone en 1764. Et donc l'histoire commence même avant la fabrication de ce violon, parce que pour fabriquer un violon, il faut du bois particulier, il faut que ce bois ait été coupé dans des forêts qui sont bien loin de Crémone, qu'il ait été transporté à Crémone, qu'il ait séché, et à l'époque ça prenait... Ça prenait au moins 2 siècles ou 3 siècles. Et donc l'histoire commence donc au moins 2 ou 3 siècles avant l'histoire de ce violon, dans les montagnes, je ne sais plus si c'est le Frioul ou le Trentin, en Italie, donc la partie d'Italie en fait qui est tout près de l'Autriche, dans laquelle il y a des montagnes. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, lui, sait faire chanter le bois, c'est-à-dire qui sait, en fait, à l'oreille, reconnaître à l'oreille et au toucher, reconnaître les bois qui sont des épicéas, avec lesquels on va pouvoir fabriquer des violons et des bons violons qui vont vraiment chanter de manière, avec lesquels on va pouvoir jouer de manière exceptionnelle. Et donc l'histoire commence à plein d'endroits du livre, en fait, et avec plein de personnages, mais notamment elle commence à ce moment-là quand ce jeune Italien c'est très compliqué, il va être chassé de chez lui en fait, et il va partir en Espagne, il va trouver un endroit où il y a des épicéas, il va le transporter à Crémone, donc ça se passe en Europe, hein, mais on navigue entre l'Italie et l'Espagne principalement, un petit peu la France aussi, et donc ce violon, un jour, après plusieurs siècles, va rencontrer Adria, ou Adria va rencontrer le violon. Et voilà, donc il y a l'histoire du violon, il y a l'histoire d'Adria, il y a l'histoire de leur rencontre et de leur, je dirais, de leur vie commune, on peut dire un petit peu ça. Et il y a l'histoire de tous les personnages qui les entourent. Alors, puisque on lit des passages hein, dans cette émission...
Je vois la page qui se tourne.
Voilà, je vais commencer tout de suite. Franchement, je pourrais ouvrir le livre n'importe où et lire un passage, mais je vais lire un passage qui est au début pour donner un petit peu une idée de l'atmosphère du livre.
Nous t'écoutons.
Tout a commencé, dans le fond, il y a plus de 500 ans, quand cet homme tourmenté a décidé de demander à être admis dans le monastère de Saint-Père d'Elburgal. S'il ne l'avait pas fait, ou si le père prieur, Don Joseph de Saint-Bartholoméou, avait persisté dans son refus, je ne serais pas en train de te raconter tout ce que je veux te raconter. Mais je ne suis pas capable de remonter si loin. Je commencerai plus près de nous, beaucoup plus près. Ton père ! Eh bien, mon fils, ton père ! Non, non, je ne veux pas davantage commencer par là, non. Il vaut mieux que je commence par ce bureau où je suis en train d'écrire, devant ton autoportrait, si impressionnant. Ce bureau est mon monde. Ma vie, mon univers, et presque tout y trouve place, sauf l'amour. Quand je courais dans l'appartement en culotte courte, les mains pleines d'engelures à cause du froid des automnes et des hivers, je n'avais pas le droit d'y entrer, sauf occasionnellement. Je devais donc le faire de façon clandestine. J'en connaissais tous les recoins, et pendant plusieurs années, j'ai eu un fort retranché et secret derrière le canapé que je devais démonter après chaque incursion pour que Lola Chica ne le découvre pas lorsqu'elle passait la serpillière. Mais chaque fois que j'y entrais légalement, je devais me comporter comme si j'étais en visite, les mains dans le dos, tandis que papa me montrait le dernier manuscrit que j'ai trouvé dans une boutique misérable de Berlin. « Regarde-moi ça et attention où tu mets les mains, je ne veux pas avoir à te gronder. » Adria se pencha sur le manuscrit, plein de curiosité. « C'est en allemand, n'est-ce pas ?» Les mains en avant, comme sans le vouloir. « Psst, on ne regarde pas avec les doigts !» Il lui donna un coup sur la main. « Tu disais ?»« Que c'est en allemand, n'est-ce pas ?» en se frottant la main endolorie. « Oui, je veux apprendre l'allemand. » Félix Ardévol regarda son fils avec fierté et lui dit « Tu vas bientôt pouvoir commencer à l'apprendre, mon fils. » Alors, en fait, dans ce passage, on voit tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire la vie d'Adria va se passer, effectivement, presque tout entière dans cet appartement de Barcelone et dans ce bureau. Un grand appartement plutôt triste, avec il n'a pas de frère ni de sœur, à son grand regret. Son père et sa mère ne l'aime pas. Enfin, il est persuadé, en fait, que ses parents, d'abord, ne s'aiment pas. Il se demande pourquoi ils sont mariés et pourquoi ils l'ont fait. Il le dit carrément. Je me demande pourquoi ils ne m'aiment pas et je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait. Bon, Voilà. Pourquoi fait-on des enfants? Est-ce qu'il y a toujours des raisons? C'est pas si sûr. Et en fait, ses parents, en fait, ont tous les deux un projet pour Adria extrêmement ambitieux et en plus contradictoire. C'est-à-dire que sa mère voudrait qu'il devienne un violoniste virtuose, mais sa mère n'a pas le pouvoir, hein, puisqu'on est en 1950 à Barcelone, et c'est son père qui décide, et son père est particulièrement autoritaire. Et son père, en fait, qui est un érudit, qui connaît plusieurs langues, quand je dis plusieurs langues, c'est une douzaine, hein, et qui est passionné, son père est un collectionneur passionné d'objets anciens, ce qui va jouer un rôle énormément important dans le livre. Et donc, il veut que Adria apprenne toutes les langues, c'est-à-dire l'allemand. Alors, quand on est espagnol, on peut connaître le castillan et le catalan, ça fait déjà deux langues. Il veut qu'il connaisse le français, l'italien, l'anglais, le portugais, et aussi les langues anciennes, c'est-à-dire le grec, le latin, évidemment, mais l'hébreu, l'araméen, qui est la langue de la Bible. Enfin, voilà, déjà, là, ça fait une dizaine et encore.
On sent une enfance, en tout cas, pas très heureuse et portée par l'exigence de ses parents, en tout cas.
C'est exactement ça. Et en fait... Adria, lui, il rêve d'être comme les autres enfants qui vont au parc d'attractions ou à la fête foraine le week-end, qui jouent dehors et qui peuvent s'amuser. Et lui, il a quasiment pas le droit de s'amuser. Il a deux petits personnages, en fait, qui sont ses deux confidents, qui sont le shérif Carson et le chef indien Arapaho. Qu'il a tout le temps avec lui, en fait. Enfin, qui lui permettent de supporter un petit peu cet autoritarisme et cet ennui. Il dit, en fait, que la vie est comme, à un moment, il dit ça à son père et son père n'est pas du tout content, mais il a l'impression que sa vie est comme sa vie chez ses parents est comme un éternel dimanche après-midi. C'est-à-dire quelque chose d'affreux parce que le dimanche après-midi, son père est dans son bureau. Son père, ce qu'il aime, c'est regarder ses objets et essentiellement ses manuscrits. Et sa mère s'ennuie. Mais en fait, comme sa mère elle-même a été élevée par un père qui était tout seul et qui ne savait pas comment on s'occupe d'un enfant, donc qui lui a jamais fait faire des choses qu'on fait faire aux enfants, donc elle ne sait pas à quoi lui faire faire. Et en plus, elle est malheureuse et elle s'ennuie. Et Lola Chica, elle, la bonne, donc le dimanche après-midi, c'est son jour de congé, donc elle part, elle s'habille, elle met du rouge à lèvres et part se balader. Et Adria voudrait bien partir avec elle, mais évidemment, elle a mieux à faire. Et lui, il est obligé de tourner côté dans l'appartement tout l'après-midi. Donc voilà, il y a d'abord l'enfance d'Adria, qui est un enfant triste, mais en même temps curieux, et du coup qui devient un enfant. Ce qu'on appellerait, ou ce qu'on avait tendance à dire autrefois, on disait parfois que certains enfants étaient sournois. Mais en fait, les enfants sournois, souvent, c'était des enfants, et même tout le temps, je pense, qui étaient timides et qui n'avaient pas forcément le droit de parler, ou en tout cas... qui ne pouvaient pas poser de questions parce qu'on ne leur répondait pas. Et du coup, ils étaient obligés d'essayer de découvrir tout seul. Donc voilà, il va se cacher derrière le canapé. En fait, il espionne effectivement un peu ses parents pour essayer de comprendre leur vie et ce qu'ils fabriquent. Et en fait, c'est vrai qu'il va petit à petit apprendre tout un tas de secrets. Mais comme en fait, il est petit et que forcément, il ne comprend pas, et puis que ses parents, surtout son père, a une vie très particulière, fait des choses pas très catholique, si on peut dire. Et ben finalement, Adria, il interprète ça et il imagine des choses. Et donc Adria va grandir. Et alors, ce qui est important aussi dans ce livre, c'est que le père d'Adria, en fait, considère, et il le dit tout au début du livre, hein, tout au début du livre, il dit... Ce n'est qu'hier soir, alors que je marchais dans les rues trempées de Valcarca, que j'ai compris que naître dans cette famille avait été une erreur impardonnable. Et ça, quand on lit le livre la première fois, on lit cette phrase et puis voilà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on continue et puis on l'oublie en fait. Et quand on arrive à la fin du livre et quand on recommence, ce que j'ai fait, et là on comprend, on se dit ah oui. Parce qu'en fait, le problème d'Adria, c'est qu'il va devoir porter pendant toute sa vie les erreurs, et quand on dit des erreurs, c'est plus que des erreurs, hein, qui ont été commises par ses parents, en fait, sa famille et même ses grands-parents, et qui font qu'il n'arrivera jamais, finalement, dans sa vie à obtenir, à vivre la vie qu'il aurait aimé vivre, et puis surtout à être heureux, et notamment à gagner vraiment l'amour de Sarah qu'il va rencontrer et qui est l'amour de sa vie. Parce qu'en fait, elle va lui en vouloir toute sa vie de choses que son père notamment, sa mère non, parce que sa mère, la pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu, et de toute façon, en tant que femme dans les années 50, on ne choisissait pas forcément. Mais en tout cas, elle va lui en vouloir toute sa vie d'actes qui ont été commis par son père et que... et contre lesquels il peut absolument rien, le pauvre Adrien, mais il y a toute une réflexion justement sur la responsabilité et le fait que, enfin l'héritage qu'on a finalement, l'héritage familial qui fait que il y a des choses qui sont tellement violentes, tellement dures, tellement...
Et que presque on prend le fardeau qu'ont les parents, entre guillemets.
Et puis qui sont tellement terribles que de toute façon il n'y a pas de pardon possible. Et du coup, même si lui-même, Adria, il n'a rien fait, il a juste été le fils de son père et il ne s'est pas forcément révolté, il ne s'est pas enfui. En plus, il a fait quasiment ce que son père voulait qu'il fasse, c'est-à-dire apprendre plein de langues, parce que finalement, Adria, il va apprendre à peu près 13 langues hein, à la fin. Il va devenir effectivement un... En fait, ce qu'il aime, Adria, dans sa vie, c'est lire et écrire. Et étudier. Et apprendre les langues. Parce que apprendre les langues, c'est finalement pouvoir découvrir. Enfin, la langue, c'est le langage. C'est ce qui permet de comprendre, en fait, tout simplement. De comprendre le monde, de comprendre les gens, de comprendre pourquoi les choses se passent. Parce que quand on lit, alors évidemment, là, je lis à travers une traduction, mais pour vraiment connaître ce qu'il y a dans la tête des gens, eh ben, il faut comprendre leur langue, il faut parler leur langue. Et alors, là, j'arrive à la deuxième, au deuxième élément important de ce livre. Donc, le premier, c'est l'histoire d'Adria et du violon et de tous les personnages qui les entourent. Et la deuxième chose, c'est l'histoire du mal. Adria, en fait, est quelqu'un qui se pose des questions. Il comprend assez vite qu'il est l'héritier d'une famille et d'un père qui a commis des choses impardonnables. Voilà, c'est vraiment le mot. Totalement impardonnable et irréparable. Et que lui-même, qui finalement qu'on lui... Il porte ce fardeau, en fait, de choses qu'il n'a pas commises lui-même. Et il se pose des questions toute sa vie. Il se pose toute sa vie, en fait, la question de comprendre pourquoi le mal existe. Dans la famille d'Adria, on ne croit pas en Dieu, ce qui est extrêmement exceptionnel à Barcelone à cette époque-là. Parce qu'en plus, ses parents l'envoient faire des études, enfin, dès la sixième, en gros, chez les jésuites. Et il négocie avant avec le supérieur des jésuites, je ne sais plus comment on appelle, qui, pour dire qu'Adria n'ira pas au catéchisme et ne suivra pas l'enseignement religieux, parce que, bon, bah, ils sont d'une famille qui peut se permettre ça. Mais il est le seul, en fait, dans son collège de jésuites à ne pas croire en Dieu. Et dès tout petit, il sait que ses parents ne croient pas en Dieu et que lui, il ne croit pas en Dieu. Et donc, forcément, dans sa vie, il va se trouver confronté donc, au mal et il va se demander pourquoi le mal existe, pourquoi il y a des hommes qui commettent des choses absolument épouvantables. Et la grande question, c'est puisque... Mais je rappelle qu'on est toujours dans un roman. Hein. Le livre est toujours, je veux dire, c'est absolument pas...
biographique, c'est pas...
Ouais, non, et puis c'est pas compliqué, c'est pas... Parce qu'il y a toujours des histoires, en fait. Hein.
Mais c'est pas écrit à la façon d'un essai philosophique.
Non, c'est absolument pas ça. Voilà, même si Adria, lui, il écrit des essais philosophiques.
Oui, d'ailleurs, finalement, on pourrait résumer sa profession à être philosophe.
On peut dire un peu ça, historien. En fait, il est historien des idées. À un moment, on lui demande ce qu'il peut faire, mais quand il a 20 ans, et il dit « je voudrais apprendre l'histoire, étudier l'histoire des idées », son copain Bernard se fout de lui en lui disant « l'histoire des idées, mais t'es fou et tout ». Si. Et en fait, il veut écrire l'histoire du mal, essentiellement. Et donc, Adria se dit, puisque, de toute façon, si Dieu existait, c'est pas possible que Dieu existe. Si Dieu existait, il n'aurait pas permis qu'il existe Auschwitz, puisque, voilà, j'y viens, ce livre se passe à une partie du livre, certaines parties du livre se passent à Auschwitz, où évidemment, je dirais que Auschwitz, c'est vraiment l'incarnation du mal au XXe siècle.
Hein.
Voilà, exactement. La Shoah, c'est vraiment le mal incarné, même s'il y a plein d'autres endroits où finalement il s'est passé des choses aussi.
Dans l'image populaire, c'est clairement le mal absolu.
Voilà. Et puis c'est surtout que c'est un mal. Enfin, c'est des choses qui ont été commises de façon. Enfin, il y avait une théorie, c'est quelque chose qui a été commis de façon préméditée, déterminée. Il fallait éliminer les juifs, qui étaient considérés comme des sous-hommes. Donc il y avait vraiment une volonté, en fait. De faire ce que le commun des mortels considère comme le mal. Donc voilà, Dieu ne peut pas exister, mais comment est-ce que c'est possible ? Donc dans ce livre, on va avoir l'histoire de un certain nombre de personnages qui sont Obersturmbahn, Führer à Auschwitz, et qui ont commis des choses absolument épouvantables. Alors là, que je raconterai pas, hein, parce que ça, c'est vraiment les passages du livre. Je dirais que la première fois que j'ai lu, je les ai presque pas zappés, mais en fait, je suis passée dessus sans trop...
Ouais, sans trop les détails. On
sans trop approfondir et sans les retenir. Et la deuxième fois, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Et bon, il y a des choses, on sait ce que c'est Auschwitz, hein, les camps de la mort et tout ça, mais il y a eu pire. Il y a eu pire que l'extermination, il y a eu pire que les chambres à gaz, en fait. Mmh. Et donc, il y a des gens, et notamment, il y a beaucoup de médecins dans cette histoire, parce qu'en fait, bah, les médecins ont joué un rôle...
les expérimentations médicales.
Voilà, il y a des médecins, et c'est assez... Il y a des médecins qui ont joué un rôle... Enfin, qui ont été nazis, et qui donc ont joué un rôle dans la politique de comment dire... d'extermination, mais surtout dans les expérimentations médicales qui ont été faites par les nazis. Et il y a aussi des médecins juifs qui, eux, ont été pris au piège parce qu'ils étaient médecins. On leur a demandé d'intervenir pour soigner des nazis ou pour, voilà, dans des cas d'urgence. Et puis quand on est médecin, bah, on ne refuse pas. Et du coup, ils ont été épargnés, en fait, parce qu'ils étaient médecins. Et donc, ils ont survécu. Et on sait très bien que, finalement, les gens qui ont survécu, c'est eux qui... Bah, les autres sont morts. Hein. Mais quand on revient et qu'on sait que toute sa famille, tout son peuple est mort, c'est une culpabilité qu'on porte... voilà, c'est l'histoire de Primo Levi. Enfin, voilà, qu'on porte... jusqu'à la mort, finalement. Donc, ça peut paraître un peu confus, ce que je raconte, mais c'est exactement comme ça que ça se passe dans le livre. Donc, il faut être prêt à ça.
On s'était dit en off avant l'émission que si ça partait un petit peu dans tous les sens, eh ben, ça serait fidèle.
Oui, voilà, parce que c'est vraiment ce qu'on... Je ne sais pas si les auditeurs se sont rendus compte dans le passage que j'ai lu, mais en fait, le propre de ce livre, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui se lancent dans ce genre d'aventure, mais là c'est extrêmement bien fait, c'est que en fait, en plein milieu d'un paragraphe, en plein milieu d'une page, ou voire en plein milieu d'une phrase, il change. Alors soit il change de personne, c'est-à-dire qu'il part, par exemple, il parle à la première personne, il dit Adria, et après il dit je ou il dit tu, et en plein milieu d'une page aussi, il change de personnage. C'est-à-dire qu'on commence avec l'histoire d'Adria. Bah, tout à l'heure, voilà, il y avait le monastère de Saint-Père del Burgal. Et ensuite, on se retrouve dans le bureau du père d'Adria. Et ça, c'est tout le temps. Je veux dire, on est dans la forêt, dans le Haut Adige, en Italie. Et tout d'un coup, on est à Crémone. Et tout d'un coup, on est à la Grégoriana à Rome. Et tout d'un coup, on est à Barcelone.
Il n'y a pas de narrateur fixe.
Comment dire ça ?
Ça paraît très cinématographique, finalement, comme construction.
Oui, on pourrait dire ça, franchement.
Faire
un film de ce livre, ça serait quand même une sacrée entreprise. En fait, Adria parle à la fois... Enfin, oui, c'est ça, la narration, elle change. C'est-à-dire que Adria parle de temps en temps à la première personne. Bah, au début du livre, il parle à la première personne. Mais en fait, il y a plein de passages où c'est le narrateur, en fait, qui raconte l'histoire d'Adria, la troisième personne. Et puis, eh bien, le narrateur raconte aussi l'histoire, parce que c'est vraiment un récit, de tous les autres personnages qui sont donc des moines de la Grégoriana au Vatican, des monastères de l'Inquisition en Espagne, parce que voilà, c'est la deuxième... les deux exemples qu'il a choisis, Jaume Cabré, pour illustrer vraiment la quintessence du mal, hein, le pire du pire de ce qu'on peut imaginer, c'est donc le nazisme, et notamment les camps de la mort, enfin l'extermination des juifs, et l'Inquisition. Parce que là aussi, l'Inquisition, c'est vraiment... comment dire, c'est marrant parce que j'en parlais hier, avant de faire cette émission... C'est toujours bien d'en parler à quelqu'un avant de venir parler dans le micro. Et je disais, finalement, il y a des philosophes qui disent, alors franchement, je suis incapable de citer un nom, que le propre de l'intelligence, c'est en fait de... Enfin, ce qui fait vraiment l'intelligence, c'est de pouvoir se placer dans le... Comment dire, dans l'état d'esprit de son contradicteur, de se mettre à la place de l'autre et de finalement, quand on est l'esprit de contradiction, c'est pas juste un truc pour casser les pieds aux autres, c'est justement...
Mais presque de savoir adopter son point de vue.
Voilà, et de réfléchir avec les arguments de l'autre, et puis tout simplement la première qualité, disons, de l'intelligence, c'est le doute, hein, le critère de l'intelligence, c'est le doute. Et bah, par exemple, l'inquisition, enfin le nazisme ou l'inquisition, et là c'est très très bien raconté, le doute n'est pas permis, en fait. Puisque les gens qui doutent, enfin les hérétiques, sont des gens qui pensent pas la même chose que... Enfin, en tout cas, qui n'adoptent pas la doctrine des inquisiteurs. Mais dès que quelqu'un doute émet un tout petit doute ou en tout cas ne dit pas tout de suite oui, enfin voilà, ne fait pas une réponse simple et, mmh. et ben hop, on le met sur l'espèce de truc de torture là où on est, mmh. je sais plus comment ça s'appelle, la roue, enfin ce genre de choses, on lui tranche la langue et...
C'est que c'est vraiment la condamnation des élites intellectuelles
c'est ça,
à chacun
c'est ça.
Dans les deux époques.
En fait, malgré tout, dans ces entreprises d'extermination, de domination, enfin, parce que c'est ça aussi. Hein, l'idée, c'est que c'est quand même toujours la recherche du pouvoir. C'est que on élimine tous les, enfin, c'est le totalitarisme. On élimine tous ceux qui veulent discuter, en gros, hein, pour dire les choses simplement. Et donc, on élimine tous les gens qui pensent. Voilà. Finalement, le mal, c'est le refus de la pensée, le refus de la discussion, le refus de la question, du doute, de la philosophie, de l'intelligence, des études, etc.
Et trouver de l'actualité.
Oui, bah évidemment, hein, évidemment. Et donc, ce qui, pourquoi aussi Adria et pourquoi Rome Cabré parle de ça, c'est que Adria, lui, ne croit à rien, ses parents ne croient à rien, mais Sarah, donc la jeune fille, et puis ensuite jeune femme dont il va tomber vraiment fou amoureux, il se trouve qu'elle est juive. Mmh. Et elle vient d'une famille de juifs, dont une partie de sa famille a été donc exterminée à Auschwitz. Et donc il va au bout d'un moment, comprendre qu'il y a quelque chose d'infranchissable en fait entre eux, parce que sa famille, à elle, donc, a été exterminée. Elle a un oncle qui est revenu et qui, en fait, ne s'est jamais remis finalement, de n'avoir pas été tué à Auschwitz, d'avoir été épargné, enfin, qui culpabilise à cause de ça. Et en fait, dans sa famille, ils savent que le père d'Adria est donc un collectionneur qui, en fait, ce qu'il aime, voilà, Adria dit mes parents m'aiment pas, ce que son père aime, ce sont les objets de valeur, et notamment les manuscrits. Ce qu'il aime par-dessus tout sont les manuscrits anciens, et il ferait n'importe quoi pour pouvoir obtenir un manuscrit. Hein,
c'est qu'il a bénéficié de trafics plus ou moins avouables, on imagine.
Voilà, et notamment, alors le violon, déjà, comment il a pu réussir à acheter un violon qui date de 1764 pour une bouchée de pain et l'enfermer dans son coffre-fort. Comment il peut avoir dans son tiroir un manuscrit de Nietzsche, un manuscrit de Descartes, alors 3-4 pages, hein, mais quand même, voilà, normalement ce sont des choses qu'on trouve dans des bibliothèques nationales ou dans des musées, enfin voilà, son père il a des choses comme ça chez lui. Et toutes ces choses-là ont été en fait mal acquises, hein. Et notamment ont été acquises avant la guerre, en fait, quand les familles juives riches, et puis surtout, on sait très bien que l'étude, la pensée, c'est ce qui fait l'opposition, hein, avec le nazisme, est vraiment l'élément essentiel de la culture et de la religion juive. Et donc, ce sont des gens qui avaient des manuscrits, qui avaient des livres, qui avaient des choses de valeur. Et en fait, ils ont été obligés de s'en débarrasser, de les vendre, et de les vendre pour une bouchée de pain parce qu'ils n'avaient pas le temps de discuter. Et c'est ce qu'on appelle la spoliation des biens des juifs, et aujourd'hui, y a tout un travail de restitution, en fait, mais il y a plein de choses qui ont été dispersées et on ne les retrouvera jamais. Mais voilà, donc son père, en fait, a profité finalement de la guerre pour être un profiteur de guerre, et il est passé par des tas de gens. Donc je parlais tout à l'heure d'un personnage qui s'appelle Monsieur Berenguer, mais il y en a plein d'autres. Il y a le docteur Haribert Voigt, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, qui est à la fois un médecin nazi et en plus qui fait du trafic d'objets confisqué, puisqu'il est un médecin nazi, donc il peut confisquer les objets. Donc ce violon, en fait, est arrivé jusqu'à Auschwitz, puisque c'est une famille juive qui l'avait acheté. Et quand ils sont partis, quand les soldats sont venus les chercher à Anvers pour partir à Auschwitz, et ben ils n'ont rien eu le temps de prendre et ils n'ont pris que le violon. Et le docteur Voigt va récupérer le violon, qui va se retrouver en Italie et qui va être vendu, qui va lui être carrément extorqué par le père d'Adria, et qui après va finir par être récupéré, mais pas forcément par les personnes qui auraient dû le récupérer.
Il n'y a pas eu restitution.
Voilà. Et donc le drame d'Adria, en fait, c'est que le drame essentiel d'Adria, c'est qu'il va jamais pouvoir être heureux vraiment avec Sarah, parce qu'en fait elle va le quitter plusieurs fois, parce qu'en fait elle n'arrive pas à accepter le fait que son père finalement ait commis tous ces crimes, parce que pour elle c'est absolument impardonnable le fait d'avoir profité du fait qu'il y avait la guerre, et en fait une guerre qui reposait vraiment sur des théories épouvantables, pour devenir riche en fait, tout simplement, puisqu'il a des objets absolument, enfin voilà, hein, c'est... Et en plus, on va découvrir aussi que le père d'Adria, non content d'aller extorquer des choses de valeur à des gens qui ne pouvaient pas faire autrement, il est aussi allé dénoncer, parce qu'il y a aussi le franquisme, voilà, le mal, hein, il y a les nazis, il y a le franquisme, il y a l'inquisition, il est allé aussi dénoncer des gens, comme ça, pour... sans vraiment de raison particulière. Bon, ça lui reviendra en boomerang un jour, mais voilà. Et Sarah, finalement, n'arrivera jamais à pardonner à Adria ce qu'a fait son père. Et parce que sa famille en a été... Enfin, pas directement, évidemment, hein, mais sa famille a été victime de ce genre de personnage. Donc, en fait, dans ce livre, il y a à la fois l'histoire d'Adria, qui illustre, finalement, toute cette réflexion sur le mal, parce que il y a aussi, finalement, il se dit, bon, il y a ces exemples absolument épouvantables de ce que ça peut être le mal poussé à son extrême, mais il y a aussi le mal de tous les jours, c'est-à-dire que lui aussi, il cache des choses à Sarah, parce qu'il ne lui dit pas exactement tout ce que son père a fait, et finalement, au bout d'un moment, on sait très bien ce que ça fait quand on cache des choses, il y a un moment où on est un peu coincé, et on est obligé de mentir encore plus, et voilà, il fait ça avec son ami Bernard, où il ne lui dit pas tout à fait la vérité, enfin, c'est tous les petits, les petites lâchetés, en fait, les petits mensonges, les petits trucs qu'on fait dans la vie de tous les jours, parce qu'on est tous comme ça, hein, on est tous pas si courageux, pas si honnêtes et tout ça. Et à une petite échelle, c'est peut-être pas si grave, mais finalement, le mal, c'est juste une question de degré, mais c'est toujours la même chose. Et voilà, donc, arrivé à la fin de sa vie, Adria va se retourner un peu vers le passé et essayer de raconter cette histoire. Donc, c'est un truc assez rocambolesque, parce qu'en fait, il va raconter donc son histoire, il va raconter l'histoire du mal, et son ami Bernard va récupérer un monceau de papier qu'il va essayer de... qui va finir par éditer, et qui fait un roman de 900 pages, et qu'on lit sans s'arrêter. Alors je vais essayer de trouver un petit passage.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, le narrateur, entre guillemets, ce serait Bernard, son ami, qui serait celui qui transmettrait l'histoire de...
Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est ce qu'on découvre à la fin. Et comme Bernard, en plus, a toujours rêvé, Bernard aussi est plein de lâchetés, de mensonges. Bernard est violoniste, mais il n'est pas premier... Il voudrait être virtuose, mais il n'y arrive pas. Il est juste premier violon dans un orchestre à Barcelone, ce qui est déjà pas mal, mais lui, ça ne lui suffit pas. Et il veut écrire, parce qu'il admire Adria, il voudrait écrire, mais en fait, quand il écrit, il demande son avis à Adria. Adria lui dit... Idée Adria, en plus, il le fait promettre de lui dire la vérité quand il aura lu son livre. Et Adria est quelqu'un qui a un petit côté, je dirais, autiste, mais dans le sens où, justement, il dit toujours les choses au premier degré. Et il lui dit, c'est très mauvais. Il n'y a pas d'âme. Alors évidemment, Bernard est complètement catastrophé, il lui en veut. Il lui dit, non mais franchement, t'exagères, t'es pas un ami et tout. Tu m'as dit de te dire la vérité, je te dis la vérité, quoi. Enfin, voilà, ton livre, non, t'es un bon violoniste, mais t'es un mauvais écrivain. Je sais pas pourquoi t'écris. Tu devrais pas écrire. Mais en même temps, en faisant ça, à un moment, justement, il se dit, mais pourquoi je suis si intransigeant? C'est l'intransigeance qui fait le mal aussi, et dans la vie, quelquefois. Voilà, alors, à la fois, il y a des mensonges qui font du mal, mais quelquefois, il y aurait des petits mensonges qui pourraient faire du bien. Alors là, je vais lire un tout petit passage qui parle de Sarah. Quand j'ouvris la porte, Sarah aurait pu me demander d'où viens-tu? Et moi, je viens d'enterrer ma sœur. Et elle, tu as une sœur? Et moi, oui, une demi-sœur. Et elle, eh bien, tu aurais pu me le dire. Et moi, c'est que tu ne me l'as pas demandé. Et puis, on ne se voyait jamais, tu sais. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit maintenant qu'elle était morte? Parce qu'il aurait fallu que je te parle de ton ami, Tito Carbonel, qui veut me voler le violon, et nous nous serions à nouveau disputés. Mais quand j'ai ouvert la porte de la maison, tu ne m'as pas demandé d'où viens-tu, et je ne t'ai pas répondu, je viens d'enterrer ma sœur, et tu n'as pas pu me répondre, tu as une sœur. Et alors, je m'aperçus, je découvris dans l'entrée ton sac de voyage. Adria la regarda d'un air étonné. Je vais à Cadaqués, répondit Sarah. Je t'accompagne. Non. Elle partit sans donner aucune explication. Ce fut si rapide que je ne me rendis pas compte de l'importance que cela allait avoir pour tous les deux. Quand Sarah fut partie, Adria, encore désorientée, le cœur inquiet, ouvrit les armoires de Sarah et se sentit soulagée. Les vêtements étaient à leur place. Je me dis que tu n'avais emporté qu'un peu de linge de rechange.
On sent bien la différence de narration, en tout cas, que tu évoquais.
Oui, tu vois, il passe de la première personne à la troisième.
Fluide.
Voilà, ça passe tout seul, en fait. Ouais. Parce que par moments, il est vraiment dans la peau d'Adria, et à d'autres moments, il prend un peu de distance, et Adria devient le personnage du livre. Donc, il y a deux fils directeurs finalement dans ce livre, c'est l'histoire de Sarah, enfin l'histoire d'Adria et Sarah, et l'histoire du violon qui vont se mélanger. Ça va partir à Auschwitz, ça va partir en Afrique du Sud, en Hollande, en Italie, un tout petit peu en France. Mais on commence à Barcelone et ça se termine à Barcelone et on aura fait un petit peu le tour de. Finalement, des grands événements qui se sont passés au XXe siècle autour de ce personnage, Adria, qui reste quand même le personnage de ce livre.
Eh bien, Françoise, je te propose de nous lire, avant de finir cette émission, un dernier petit passage, voilà, pour continuer de nous présenter Confiteor.
Non, je suis un de ses camarades des Beaux-Arts et elle n'est pas là. Pardon ? Elle n'est pas là. Était-ce son père ? Je ne savais pas si elle avait un grand frère ou si un oncle vivait chez elle. Outre le souvenir de l'oncle Haïm. Mais pas là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sarah est partie vivre à Paris. L'homme le plus heureux de l'univers, en raccrochant le téléphone, vit que ses yeux, tout seul, sans intervention de sa volonté, se mettaient à pleurer désespérément. Il ne comprenait rien. Comment se fait-il que Sarah, elle ne m'a rien dit ? Du jour au lendemain, Sarah. Mais puisque vendredi, que nous nous sommes vus, nous avons décidé de nous retrouver à l'arrêt du tramway. Du 47, oui, comme nous le faisions depuis que... Mais qu'est-ce qu'elle fout à Paris ? Hein ? Pourquoi a-t-elle fui ? Qu'est-ce que je lui ai fait ? Adria, pendant 10 jours, sous la pluie et sous le soleil, se rendit chaque jour au rendez-vous de 8 heures, devant l'arrêt du tramway, espérant qu'un miracle se produise et que Sarah ne soit pas partie vivre à Paris, mais bon, je suis de nouveau là. Ou alors c'était juste une expérience pour voir si tu m'aimes vraiment. Ou je ne sais pas, n'importe quoi, et voyons si elle apparaît avant que passent 5 tramways. Et puis le 11e jour, en arrivant à l'arrêt, il se dit qu'il en avait assez de voir passer des tramways qu'il ne prendrait jamais tous les deux. Et je n'ai plus jamais mis les pieds à cet arrêt de tramway, Sarah. Plus jamais.
Sur une note
peu joyeuse que nous, que nous finissons cette émission Confiteor de Romé Cabré. Un livre dense, donc on l'a compris, complexe mais pas confus.
Non, et absolument passionnant.
Merci Anne-Françoise.
Merci à Boris.
Et on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle présentation. Ce sera Le Temps pour lire.